Plaisir de se retrouver pour parler de votre travail passé et peut-être aussi présent et futur. Alors, en guise d'introduction, je voudrais rappeler quelques moments, quelques thèmes importants dans votre travail. Le point de départ, me semble-t-il, vous me direz si je me trompe, c'est votre expérience de la mine, votre rencontre avec George Friedman et ce qui sera la sociologie du travail, l'étude de la condition ouvrière, de la conscience ouvrière surtout. Puis assez vite, vous irez en Amérique latine, vous allez en Amérique latine. Je ne sais pas lors de quel voyage vous rencontrez Adriana.
Le premier. 56.
Et donc, à la fois, l'Amérique latine, évidemment, ces problèmes du travail qui continuent à vous mobiliser, mais aussi viendront le thème de la dépendance, et plus tard, le thème de la violence, des guérillas, du populisme, enfin, tous ces thèmes latino-américains, mais pas seulement. Un troisième moment qui est aussi une thématique qui va se développer, c'est ce qui se joue, me semble-t-il, vers la fin des années 60, c'est-à-dire à la fois l'idée que nous changeons de type de société, la société post-industrielle, je pense qu'Anne-Marie Guimard aura des choses à nous dire sur ce registre, les mouvements, le mouvement étudiant, donc aussi la réflexion et l'analyse du système éducatif, du système universitaire, et à peu près à la même époque aussi, l'idée peut-être qu'il faut proposer une autre façon de travailler en sociologie et donc l'invention d'une méthode qui donnera son nom à un centre que vous créerez avec François Dubé, Joujaï Guédou, chez moi-même, et qui animera à la fois l'hypothèse historique du changement de type de société, mais aussi la recherche de nouveaux acteurs et la réflexion sur ce qu'il advient de l'ancien acteur du mouvement ouvrier. Voilà donc un quatrième ensemble de thèmes très importants. Je pense aussi qu'il serait bon que nous parlions de ce qui est plus récent dans votre travail, c'est-à-dire, et là je pense que Farhad Khosrow-Cavard pourra très bien animer les choses, que nous réfléchissions aussi sur ce qui est chez vous, je crois, au carrefour de la sociologie, de la philosophie politique et morale, et je dirais même de l'anthropologie, la réflexion sur le thème du sujet, sur la crise de la modernité, sur la nature, sur la démocratie, enfin ces grandes questions. Et puis j'aimerais bien aussi que nous puissions parler de vos rendez-vous avec l'histoire qui se fait lorsque des acteurs puissants se mettent en place, mai 68 en France et d'une certaine manière aux États-Unis, et pas seulement, le Chili, 73, Pinochet, mais avant l'unité populaire, Solidarność en Pologne, où François Dubé et moi-même étions avec vous, ce qui fut certainement un grand moment pour nous tous, et peut-être plus récemment aussi le Chiapas, c'est-à-dire cette formidable aventure du sous-commandant Marcos. Alors voilà, est-ce que j'oublie des thèmes importants et lesquels ?
Merci. Écoutez, moi, je ne pense pas qu'on oublie ou qu'on n'oublie pas les thèmes importants. En vous écoutant, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a une continuité ou une discontinuité ? Discontinuité, c'est-à-dire on commence avec la société industrielle et puis il y a 20 ans de confusion. Maintenant, on se trouve dans une société qu'on n'appelle plus post-industrielle à juste titre, mais plutôt une société de l'information. Et est-ce que les problèmes sont complètement différents ? Et puis enfin, la situation politique entre-temps a changé, le vocabulaire, l'idéologie. Alors moi, chaque fois que j'ai l'occasion de revenir sur cette histoire, un peu objectivement, un peu du dehors, ce qui me frappe, c'est quand même la continuité. Je veux dire par là, moi je commence, nous verrons ça probablement avec Anne-Marie Guillemard tout à l'heure, moi je commence avec le problème du travail, vous l'avez évoqué avec George Friedman. Au fond, je ne me pose pas du tout la question de comment fonctionne le capitalisme, les crises générales, etc. Je me pose la question d'où vient, comment expliquer la conscience de classe ouvrière. C'est ce qui a occupé mes 10 premières années de travail. Donc, si vous voulez, je m'intéresse déjà à un sujet plus qu'à un système. Et quand je, ensuite, bon, que ce soit le Chili, évidemment, que vous avez évoqué, solidarité, genre les moments heureux, il n'y en a pas tellement dans une vie de chercheur. Enfin, les moments heureux, ça a été... Solidarność, c'est probablement le meilleur, vous l'avez dit. Il y a des moments de 68, il y a les deux moments que j'ai passés avec Marcos, etc. Donc, si vous voulez, c'est parce que j'ai le sentiment, on a le sentiment de voir non pas l'histoire se faire, mais de voir émerger des sujets qui donnent sens à l'histoire. Et puis, évidemment, je crois qu'on en parlera tout à l'heure, à partir des années 90, alors je suis beaucoup plus centré, non plus sur une philosophie de l'histoire qu'on laisse tomber, ou pour parler comme Kosso-Kavar, on laisse tomber l'acteur social et on se concentre sur le sujet personnel qu'on cherche par une réévaluation de la modernité, une analyse du système. Vous dites, un livre auquel je tiens beaucoup, c'est « Pourrons-nous vivre ensemble ?» Le livre que nous avons fait avec Kosso-Kavar, puis peut-être le suivant, si j'ai le temps pour l'écrire, et qui sera consacré aux femmes. Donc, au total, je dirais, mon obsession, c'est quand même, dans un monde très marqué par les systèmes, les structures, y compris intellectuellement, tout ça, il ne faut pas oublier, 60-70, structuralisme, post-structuralisme, le sujet est mort, c'est un mouvement sur le sable. Bon, c'était pas facile de parler de sujet ou de parler d'acteur à ce moment-là. Bon, donc je dirais à la fois une continuité de thème et je dirais malheureusement aussi une continuité d'opposition ou de marginalité. C'est-à-dire que quand le marxisme pur et dur règne, moi je parle de conscience ouvrière, lorsque le post-structuralisme règne, moi, je parle de la naissance de sujets dans l'histoire, dans telle ou telle partie du monde, et j'aurais tendance à penser que maintenant, depuis quelques années, le genre de réflexion que un certain nombre de nous menons correspond mieux à l'esprit du temps et que les mots que j'emploie sont moins considérés comme des mots archaïques ou déviants ou moralisateur. Alors voilà, la ligne elle est là et j'aurais aussi tendance à dire que les malentendus, les oppositions, les résistances sont probablement peu à peu progressivement tombées.
J'aimerais quand même que vous soyez un peu plus précis sur ces résistances, sur ces oppositions, parce que là nous parlons assez tranquillement, le climat des années 60, le climat des années 70, ça a été terrible pour vous. Mmh. Une question un peu politique que je voudrais vous poser, c'est celle-ci. Est-ce que ce qui compte, c'est la conjoncture plutôt intellectuelle? Est-ce que c'est plutôt la conjoncture politique dans ces moments de grande tension que vous avez vécu? Est-ce que c'est votre milieu avec lequel les relations sont faciles ou difficiles? Bref, situez vos approches, votre travail, dont moi aussi je pense qu'il y a une très grande continuité. Après tout, vous êtes plutôt du côté de Sartre que de celui de Lévi-Strauss, par exemple. Donc, est-ce que les difficultés, pour vous, sont plutôt liées à des conjonctures politiques, à des conjonctures intellectuelles?
Je pense qu'il est facile de vous répondre, malheureusement. Quand on n'a pas un rôle politique, quand on n'a pas un rôle dans la vie publique, ce qui compte, c'est le milieu intellectuel, c'est-à-dire les gens qu'on croise, les étudiants qui vous répondent, les gens avec qui on discute, les réactions aux livres ou aux articles qu'on écrit. Alors, Là-dessus, je prends un peu de large et je vais peut-être un peu au-delà de ma pensée, mais moi, je crois que dans un pays comme la France, ce qu'on appelle les intellectuels, avec la très grande tradition de ce mot, je pense que les intellectuels se sont de plus en plus identifiés à la part de l'impossible, à la part de l'insupportable, et que donc ils ont progressivement pris un rôle non pas de critique, mais de dénonciateur. Je dirais que pour moi, le hasard faisait que hier j'entendais sur une, je crois, France Culture, par hasard, en rentrant de l'aéroport, Roland Barthes, que j'ai bien connu. Bien, il est évident que le ton de Roland Barthes, qui avait des convictions fortes, mais c'est un ton non seulement de courtoisie, chacun le sait, mais disons d'une discussion ouverte. Et je dirais même quelqu'un qui apparaît comme plus dur comme Foucault, quand vous lisez ou relisez du Foucault, et surtout maintenant ce qu'on a publié, vous voyez qu'il y a mille ouvertures. Tandis qu'ensuite, on a l'impression, mais ça tient à des causes de politique économique internationale, depuis ce qu'on appelle la globalisation, si vous voulez, à partir de la fin des années 70, les choses se tendent et vous avez une sorte de rupture. Donc, après tout, je ne me plains pas trop parce que c'est très bien qu'il y ait un secteur en rupture et l'espace à expliquer est de plus en plus grand. Alors, le moment difficile, le moment le plus difficile pour moi, ça a été l'après 68. Les gens de 68 que je connaissais bien, et certains j'étais ami, je le suis toujours, ont fichu le camp, enfin on les a aidés à partir, et alors, il y a eu une phase qui était à la fois une phase althusserienne, mais surtout une phase de décomposition. Et c'est ça qui m'a frappé, je dirais, un peu comme si vous voyez, le syndicalisme, ça monte en 68, vous avez l'IP après, puis ensuite, ça s'écroule. Ben, je dirais, le monde intellectuel, c'est un peu ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'après tout, des idées qu'on tire depuis, je ne sais pas moi, depuis le Front Populaire, depuis la Libération, enfin depuis le comité antifasciste de 34, pour remonter au début, ces idées, ben, elles commencent à avoir fait leur temps. Et donc, moi, j'ai probablement plus souffert d'une période de décomposition. Et puis, nous le savons tous par nos expériences, quand les choses ne vont plus, elles se désorganisent, elles deviennent irrationnelles, elles deviennent violentes, et par conséquent, le climat de discussion est difficile. Mais moi, j'ai toujours pris la précaution de ne pas travailler seul. J'aime pas ça, puis c'était même pas possible. Donc, toute ma vie, j'ai constitué des centres de recherche. Alors, le dernier que j'ai constitué avec Dubé et vous, c'est un centre positif, je veux dire, c'est un centre d'idées où j'ai constamment été heureux. Et puis avant, j'avais constitué un centre qui était essentiellement un bunker de défense contre les attaques. Et il y avait des gens de toutes tendances, d'ailleurs, mais qui ont partagé ces... Voilà. Alors maintenant, si vous voulez, je pense qu'on pourrait revenir quand même un peu, quoi que ça soit loin, je m'en excuse, à la phase travail qui a... Quand même, j'ose à peine évoquer des dates, mais je suis entré au CNRS en 50, en même temps qu'Edgar Morin, et les choses changent en 68. Donc il y a quand même pas loin de 20 ans de travaux, qui ça se termine mai 68, la société post-industrielle. Alors on s'est connus, pas au début évidemment, mais à la fin de cette période-là, et je ne sais pas comment vous, Anne-Marie, vous la voyez.
Moi, ce qui m'a marqué, évidemment, c'était la construction de votre construction de la théorie de la société post-industrielle. C'est à ce moment-là que j'ai rejoint votre séminaire. Donc, pour moi, c'était même un choc de voir comment on pensait le changement, les mutations de la société, parce que c'était quand même une élaboration tout à fait nouvelle. Vous étiez le premier, avec Daniel Bell, à parler de société post-industrielle.
C'était relativement nouveau, il ne faut pas oublier que c'était il y a plus de 30 ans.
Absolument.
Mon livre a été de 69, le livre de Bell était de 72, ouais, ouais. Mais Bell avait écrit déjà un article avant, avec le mot société industrielle. Mmh. Ça fait très longtemps.
Donc vous annonciez une société, un système d'action, enfin, c'était votre réflexion à l'époque, totalement nouveau, avec au cœur de ce système non plus l'investissement, l'épargne, etc., mais la connaissance. Et on était déjà, vous annonciez une société du savoir, maintenant ça paraît banal, une société du savoir de la communication, mais bon, c'était en 69, enfin vous l'écriviez en 69 et vous le disiez déjà dans votre séminaire bien avant. Donc, il y avait une nouvelle façon de moi je dois dire que c'est ce qui m'a fortement influencé, c'était une façon autre de faire de la sociologie, c'est-à-dire de se poster en guetteur, en quelque sorte, oui. De ce qui se passait de nouveau.
À ce moment-là, voyez-vous, le débat sur la société post-industrielle, qui a eu un certain intérêt, c'est que pour Daniel Bell, qui a fait un travail beaucoup plus considérable, statistiquement et autre que le mien, il s'agissait au fond de définir une société hyper-industrielle. Le développement des services, le développement des gens en formation technique, etc. Toutes choses qui sont indiscutablement vraies. Moi, j'avais plutôt, parce que j'étais juste après 68, j'avais plutôt fait un effort pour comprendre les nouveaux acteurs des deux côtés, soit les mouvements d'opposition, soit les nouvelles formes de direction. Là, les nouvelles formes de direction, les choses ont beaucoup changé parce que nous en étions à l'époque où c'était les directeurs d'entreprise, les managers, la technostructure, comme disait Gareth, qui l'emportait. Puis maintenant, depuis 20 ans, c'est les actionnaires qui ont pris le pouvoir, c'est donc différent. Mais du point de vue à la fois de la nature de ces sociétés et de ces acteurs, je crois qu'on a vu assez juste. Le hasard des choses fait que hier et avant-hier, j'étais dans un colloque très très réduit et prolongé avec Manuel Castells en Espagne. Eh bien, quand on lit les grands livres de Manuel Castells, il le disait lui-même d'ailleurs, quand il parle lui de société ou de société de l'information ou de l'informationnalisme, et il me dit que c'est la continuité
de la société
des histoires de société programmée. Enfin, il y a quand même une continuité.
C'était peut-être ce label, société programmée, qui n'a peut-être pas fonctionné.
Moi, d'ailleurs, je l'aimais bien parce qu'il y avait, j'insistais ici sur, disons, qui commande. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui imposent, pas forcément autoritairement, ça peut être par le marché ou par les marchés financiers, mais enfin, il y a des modèles d'action. Ensuite, moi j'ai laissé tomber le mot plus ou moins parce que les événements ont fait qu'on est passé par de tout autre événement et que pendant 15 ans, j'ai peu publié dans cet esprit-là. Et puis à partir du moment où le thème de l'information, secondairement le thème de la communication sont imposés, moi je pense que c'est ça qu'il fallait dire.
Et là où vous avez continuer à travailler beaucoup, c'est sur ces nouveaux mouvements sociaux, mais que vous, déjà en 69, à travers cette société post-industrielle, vous repériez comme, puisque l'enjeu c'est la connaissance, donc le mouvement étudiant, et ça m'a beaucoup marqué aussi, c'était le fait que vous aviez théorisé ce nouveau foyer de lutte sociale et que en plein 68, ça explose et qu'il y a une sorte de théorie en acte qui est le mouvement de mai et que vous en faites le diagnostic comme une sorte de contre-utopie. De contre-utopie qui met en cause tout un bloc, à la fois la société de consommation et la production.
Je vous dirais franchement que j'ai un sentiment un peu plus critique à cet égard. Parce que les nouveaux mouvements sociaux, 74, 75, j'en ai parlé, je ne sais pas. Ensuite, l'expression s'est répandue. Et puis, tout le monde... 4 ans ou 5 ans après, nous disait à Dubé, à Vivorca, à moi, ben où ils sont vos nouveaux mouvements ? Ils se sont cassés la gueule. Et nous avons tous, plus ou moins, moi j'ai fait un livre qui s'appelle Retour de l'acteur, etc. D'autres se sont exprimés autrement. Et alors, il faut dire un mot, mais c'était déjà très visible en 68. Ces nouveaux mouvements sociaux, ils n'étaient pas si nouveaux que ça. Et il faut bien distinguer, moi j'emploie la vieille expression évangélique du vin nouveau dans des outres anciennes, et en 68, ça crevait les yeux. En 68, le discours était un discours trotskiste. Trotskiste, ouvriériste, etc. Le contenu historique nouveau, c'était ce qu'on appelait une révolution culturelle, c'est-à-dire l'entrée des problèmes de la vie privée dans la vie publique, comme en 1848, on avait eu les problèmes du travail entrant dans la vie politique en France ou en Grande-Bretagne. Et moi, en 68, mon livre sur 68 est entièrement basé là-dessus, la contradiction entre ce discours ancien, celui des trotskistes, qui demeure, sans changement, en tout cas, si j'en juge par les attaques que je reçois, c'est pratiquement les mêmes qui en 68, en 95, m'engueulent. Donc, ouais. Et d'autre part, le contenu extraordinairement nouveau, parfois effervescent et parfois non durable, mais vous savez, ça arrive toujours comme ça. Je veux dire, les événements historiques, nous, sociologues qui nous occupons du temps présent, nous rencontrons rarement, même Marcos ou Solidarność, nous rencontrons rarement un événement dont on dise il est tout bon ou tout mauvais. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est de dire, voilà, j'ai un jugement positif, j'ai un jugement négatif, mais je dois prendre un jugement. Je vais d'un côté ou de l'autre. Et j'ai vu bien des gens dans le monde universitaire qui ne percevaient pas l'événement historique. Alors, dans le cas de 68, il y avait un certain mérite à faire ça, parce que j'ai quand même reçu un certain nombre de sauts d'eau sale, pas de poubelle comme Ricoeur. Et moi, j'ai soutenu ce mouvement constamment, y compris devant des tribunaux, en fonction de ce que je voyais apparaître. Il faut dire que j'avais la chance d'avoir comme étudiant et comme ami Cohn-Bendit, qui était de loin le plus intelligent, le plus novateur, etc. Et dans nos mouvements, je me rappelle le premier que nous avons étudié ensemble, qui était un peu dur, qui était mouvement étudiant. Enfin, tout le monde a oublié qu'il y a eu une très grande grève étudiante en 78, ou en 76, non, c'était bon. Et nous avons été l'étudier, et le mouvement était un échec total, et je dirais, méthodologiquement, nous aussi, moi je poussais beaucoup pour trouver du mouvement chez ces étudiants, et pas du tout, c'était en réalité la chute d'une vision. Alors, aussi, par exemple, le mouvement occitan, là, le travail était plutôt dirigé par Dubé, nous en sommes restés à une vision hésitante. Je le dis parce que cette méthode, l'intervention sociologique, on m'a quelquefois reproché qu'elle marchait toujours, c'est pas vrai. Elle a marché quelquefois, elle n'a pas marché dans d'autres. Enfin, je veux dire, elle a donné des résultats positifs, elle a donné des résultats négatifs ou des résultats mélangés. Bon. Et puis, il y a des cas où, pour d'autres raisons, à vrai dire, je veux dire, dans le cas de Solidarność, ouais, c'était pas seulement un nouveau mouvement social, c'était un mouvement démocratique, c'était un mouvement syndical, c'était un mouvement national, enfin, il y avait tout. Moi, je crois vraiment que ça a été pour nous trois le moment le plus heureux. Moi, je me rappelle, terminant mon propre travail, c'était en Silésie, à Wrocław, et on finissait, on boit quelque chose, et je dis à un des ouvriers métallurgiques qui était là, et selon vous, ça devrait être comment la Pologne de l'avenir? Et il m'a répondu, ça devrait être comme le groupe de travail que nous venons de faire ensemble. Le chercheur monte au ciel.
Plus que mai 68, parce que quand même, chercheur, théoriser quelque chose et puis voir ça se mettre en acte dans un mouvement qu'on interprète et qui semble valider un certain nombre d'hypothèses, c'est quand même une satisfaction.
C'est d'autant plus une satisfaction que j'avais publié au début de l'année, en février, je crois, deux longs articles dans Le Monde, que tout le monde a oublié, pour dire que ce qui allait se passer, tous mes amis m'ont dit, c'est fou, il ne se passe rien du tout. D'ailleurs, aucun, évidemment, n'avait de connaissance de ce qui s'est passé dans l'université. Mais sinon, ce que je veux dire, c'est que ça a été un peu dur, et finalement, moi, ça m'a amené, mais je pense que ça a amené tout notre groupe, dans les années 80, à se dire, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut radicaliser. Je veux dire, il faut ne pas traîner toujours les concepts de la société industrielle. Et c'est le moment où, pour moi, les choses se sont profondément transformées, essentiellement parce que c'était la période de la maladie de ma femme, aussi parce que j'ai passé beaucoup de temps en Amérique latine, et j'ai émergé de cette partie, alors avec vraiment une recherche et une centration sur ce qu'il y avait de nouveau, ce dont nous parlerons tout à l'heure.
François, on a été étudiants exactement au même moment, en 1974, sans nous connaître. Nous avions fait, toi et moi, le choix d'aller travailler avec Touraine. Et nous nous sommes embarqués, sans le savoir au départ, bien entendu, dans une aventure passionnante. Un travail sur le terrain prolongé, l'utilisation de cette méthode d'intervention sociologique dont il a déjà été un peu question. Et je trouverais bien que tu lances une discussion avec Touraine sur ces problèmes.
Oui, moi, bon, d'abord, il faut rappeler que ce sont probablement les années les plus excitantes de ma vie. Vous avez tout à l'heure évoqué l'aventure polonaise où on a eu, pour la première fois, et probablement la seule fois, le sentiment d'être complètement dans l'histoire, au point d'ailleurs de se demander si on avait quelque chose à dire, puisque l'histoire nous faisait l'intervention sociologique toute seule, d'une certaine manière. Le sentiment que j'ai, c'est qu'avec vous, on apprend l'art au fond du décalage. On étudie des nouveaux mouvements sociaux et on nous accuse de les tuer. À l'époque, il faut s'en rappeler, c'est-à-dire on tue les étudiants, on tue les occitans, on tue les écologistes, on tue le mouvement ouvrier, etc. En 2 ans ou 1 an avant l'élection de Mitterrand, vous écrivez « Mort d'une gauche » au moment, 1 an avant qu'elle triomphe. Oui, donc,
même un livre, ça. Voilà. La presse socialiste.
Voilà, ça paraît quand même pour le moins maladroit.
Oh.
Non, je dis ça paraît pour le moins maladroit. Dix ans après, nous sommes accusés d'avoir été naïfs et ridicules en croyant à des mouvements sociaux, alors qu'on avait montré qu'ils n'existaient pas. Quand vous écrivez Le retour de l'acteur, vous passez pour un subjectiviste. 3 ans après, grosso modo, tout le monde s'est converti à une sorte de sociologie sentimentale. Alors, je voudrais que vous... Moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'au fond, on a toujours été, avec vous, un peu en avance, un peu à côté, jamais dans le coup, se situant à gauche, étant accusé d'être à droite, être accusé d'idéologie, alors qu'on a probablement été les seuls à faire des études empiriques, minutieuse, méthodique sur les acteurs qu'on étudiait. Moi, je voudrais savoir un peu comment vous avez vécu, parce que c'est probablement, au fond, ce qui vous est arrivé quasiment toute votre vie, sauf probablement dans la première période sur le mouvement, sur le travail, comment vous avez vécu cette espèce d'être à la fois pleinement dans le mouvement et toujours à côté. Enfin, comment vous avez vécu ça? Maintenant, on s'y est habitué. Mais je dois dire qu'à l'époque, ça m'avait un petit peu... J'avais trouvé ça difficile.
Il y a d'abord une première réponse. Je n'aurais certainement pas tenu la distance si j'avais travaillé seul. Je ne dis pas ça pour des raisons matérielles, parce qu'après tout, on peut trouver des chercheurs, des aides-chercheurs sur le marché. Mais il est évident que, bien avant que nous créions ensemble le CADIS, on travaillait. Donc, si vous voulez, moi, ça a été quelque chose d'essentiel. En plus de ça, probablement étant quelqu'un de tempérament solitaire, distant, froid, enfin, ce que tout le monde dit, il doit y avoir un peu de vrai là-dedans, le fait de travailler avec vous deux et au début de cette période avec Jules Guéluche, ce côté équipe, je ne sais pas comment il faudrait dire, groupe, pour moi a été très très important. Y compris le fait de travailler dans des conditions difficiles, de dormir n'importe où, ou de courir sur la plage entre 2 séances de travail, ça a été quelque chose d'essentiel. Alors, sur le fond de ce que vous dites, moi j'ai quand même... envie de conclure d'une manière trop intéressée, peut-être je rationalise, Mais j'arrive pas à comprendre comment un intellectuel peut être organique. Je n'arrive pas à comprendre comment un intellectuel peut être d'accord avec les... pas avec une époque, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais avec les interprétations politiques, idéologiques d'une époque. Notre rôle de sociologue ou d'intellectuel en général, c'est de dégager le noyau dur et de dire, moi, voilà ce que je trouve essentiel, ce dont les acteurs souvent ne se rendent pas compte. Et puis, accepter les engueulades des politiques. De ce point de vue-là, malheureusement, je crois que j'aurais été un peu en avance sur l'époque, c'est-à-dire que moi, personnellement, vous non plus d'ailleurs, jamais voulu donner le rôle central dans l'interprétation aux politiques. Et peut-être parce que pendant tellement longtemps, le Parti communiste a joué un rôle essentiel, enfin, le Parti communiste, les intellectuels autour, etc., et que ni vous, ni Vivorca, ni moi, tout en participant d'ailleurs à beaucoup de choses organisées par ces groupes-là, nous n'avons jamais de près ou de loin appartenu à ce courant idéologique. Alors voilà, moi je crois, que voulez-vous, je dirais d'une certaine manière, vous vous débrouillez pas mieux que moi, grâce au ciel.
Non, mais grâce à vous, j'ai appris.
Non, c'est-à-dire qu'il faut, travailler sur un pied. Et ce n'est pas du masochisme de dire qu'il faut accepter des engueulades et un caractère minoritaire. Je dirais même, moi j'ai eu des moments de faiblesse, c'est-à-dire pour mon petit égo fatigué, je trouvais autour de Michel Rocard des satisfactions et personnelles et intellectuelles, donc pour dire des choses auxquelles on croyait. Mais intellectuellement, je dirais, moi, quand je trouve, vous l'avez dit à propos de Serge, que ça colle trop bien, ça m'inquiète. Je reviens sur un mot sur Solidarność. Nous n'avons aucune raison de changer l'analyse que nous avons faite, qui était hyper positive. Et en même temps, je me rappelle, il y a un certain nombre d'années, Adam Michnik, un des grands noms de Solidarność, me demande pour son journal, qui est maintenant le plus grand journal de Pologne, Gazetin, d'émettre un jugement sur les rapports entre avant et après 81, disons la période de Solidarność. Or, il y a, évidemment, les événements font que maintenant s'appelle Solidarność, un groupe de droite, pour ne pas dire d'extrême droite, au Parlement polonais. Ben, ça, c'est un peu too much. Mais j'ai défendu l'idée qu'il y avait discontinuité totale. Que Solidarność, donc, qui s'opposait complètement au régime communiste, dans son discours, avait déjà des choses, et vous vous rappelez très bien, que, par exemple, il y avait des étudiants qui, par définition, ne faisaient pas partie de Solidarność puisqu'ils n'étaient pas syndiqués, mais enfin, qui tenaient un discours autre. Et Vivorca a quelques raisons de se rappeler que, malheureusement, à la fin de la période, on a vu remonter, réapparaître à la surface un certain antisémitisme. Je dirais, mais je dirais la même chose pour les sapatistes d'aujourd'hui, si vraiment on regardait ce que pensent tous ces gens-là, on s'apercevrait que nous leur forçons, si je peux dire, la main ou le cerveau, et qu'il faut le faire. C'est ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, je le répète, c'est de trouver dans des événements, enfin c'est le travail des historiens aussi, dans une situation qui est confuse, multiple, pour savoir quel est le fil rouge, quelle est l'approche qui est essentielle. Et ça, je pense que, moi, je suis, de ce point de vue-là, je ne vous le cache pas, je ne pense pas qu'en 20 ans d'études d'un type ou d'un autre, et je pourrais ajouter 30 ans ou 35 ans en mettant celle que vous avez faite 100 mois après, moi, au total, j'ai trouvé que nous n'avons pas fait d'erreur. Nous avons quelquefois dit que les choses étaient importantes, quelquefois qu'elles n'étaient pas importantes. Celui qui a fait un peu une erreur, c'est moi, qui m'étais, la première fois, manque d'habitude, un peu enthousiasmé pour ce mouvement étudiant qui, en réalité, ne le méritait pas. Bon. Et nous l'avons bien vu, parce que ça s'est décomposé de manière extrêmement rapide. Mais je crois que dans l'ensemble, pour des raisons intellectuelles ou des raisons, disons, de méthode, moi, j'ai le sentiment que vous et moi, tous les deux et moi, au total, on a plutôt dit des choses justes.
J'aimerais revenir sur la méthode, parce que tout à l'heure, vous avez dit incidemment, vous répétez souvent incidemment, je suis un homme froid, qui communique très mal, je ne suis pas à l'aise avec les gens. Bon. Or, vous inventez une méthode qui est quand même le contraire de ça.
Absolument.
Bon. Et moi, j'avais lu des livres très compliqués, très fascinants, parce que d'abord très compliqués à l'époque, je dois l'avouer, qui était Sociologie de l'action, production de la société, et je découvre un sociologue qui dit on va monter des trucs, on va avoir des relations affectives, qu'on va essayer de maîtriser avec des gens. Je me rappelle de Touraine prenant le train toutes les semaines pour aller à Carcassonne, bon, ce qui était quand même pas facile, enfin, sans donner dans l'image d'Épinal. Vous avez une pratique de la sociologie qui est au contraire extrêmement chaude, extrêmement émotionnelle, et vous passez votre temps à dire « moi, ça m'embête », mais vous êtes probablement le sociologue qui, sans donner jamais dans les bêtises de la fusion, etc., a quand même choisi de travailler le plus directement possible avec les gens, le plus près possible du terrain, de leur expérience, etc. Et ça aussi, ça crée... Au fond, ce sentiment de décalage ou d'image trouvée par rapport à vous, on ne s'attend pas à ce que l'homme qui nous interprète assez facilement l'histoire du siècle, les grandes tendances, qui nous fait le tableau de la théorie sociologique sur un siècle sans beaucoup de difficultés, soit quelqu'un qui se préoccupe d'aller passer 4 heures avec des petits idéologues étudiants empêtrés dans leur crise d'adolescence en même temps que dans leur décomposition maoïste.
Ça, c'était Amiens.
Oui, bon. D'accord, enfin, bon. Il faudrait que vous nous en parliez un peu, parce que cette méthode est quand même très paradoxale, à partir de ce que vous dites de vous-même, d'ailleurs.
Bon, alors, évidemment, il faut d'abord parler de la méthode avant de parler de soi-même. Comme vous le savez tout aussi bien que moi, cette méthode consiste à dire, dans cette confusion, ce mélange de significations qu'il y a toujours dans une réalité, je vais essayer de voir jusqu'où ça va. Est-ce que cette grève met en cause le capitalisme ou est-ce que ça met en cause le nettoyage des toilettes dans tel atelier? Donc, la méthode qui m'est parue normale, c'était après des tas de prolégomènes, que tout ça durait très longtemps, comme vous le savez, de dire voilà, nous prenons l'initiative de dire jusqu'où ça peut aller, non pas ce que c'est, mais jusqu'où ça peut aller. Et il s'agit à ce moment-là, pour prendre un mot contestable, de convertir le groupe à cette hypothèse, ce qu'il fait assez facilement, puisque c'est, on lui dit toujours qu'il est très bon, très important, etc. Et ensuite, ça se casse la gueule, on descend, ou bien ça se passe comme ça. Donc, je dirais, puisque nous en avons eu des exemples... très, très célèbre, vraiment le chercheur, pour les gens, s'arrache les tripes. Et moi, je me rappelle une séance qui était vraiment très dramatique, où je m'arrachais les tripes. Bon. Et c'est dans la méthode. C'est-à-dire, ça ne peut pas être autrement. Alors, à part ça, sur le plan personnel, les gens qui sont très froids, c'est qu'ils ont quand même une réserve de chaleur ailleurs. Et puis le travail aide. Et moi, je dirais que, en effet, j'en parlais avec une journaliste hier à Madrid. C'est vrai qu'après tout ça, je me sens un peu moins froid et un peu moins distant qu'il y a un demi-siècle.
Je me demande si votre côté chaleur, il n'est pas aussi très latino-américain, ce qui est l'occasion peut-être de faire entrer dans cette discussion Angelina Peralva. C'est-à-dire que ceux qui vous connaissent savent très bien que vous donnez l'impression d'un homme très froid en France et nettement plus chaud vu de l'autre côté de l'Atlantique.
Oui, c'est quand même pas entièrement vrai, parce que quand j'ai commencé à travailler en Amérique latine, je n'avais qu'une idée fixe. C'est pas de tropical. Et alors j'ai été m'installer à Santiago, à San Paulo, qui ne sont pas des villes drôles. Je veux dire, je n'ai pas été m'installer ni à Rio, ni dans les Caraïbes, ou que sais-je. Mais là, je dis juste un mot, parce qu'il y a quelques semaines, peu de semaines, j'ai vu en avant-première un film que fait notre ami, Hugo Santiago, qui lui est argentin, sur une grande chanteuse brésilienne qui s'appelle Maria Bethânia. Et alors ça, il s'agit, quand je vais venir m'excuse, mais il s'agit du Brésil. Alors, quand vous voyez un film, moi, au bout de 5 minutes, je sentais le Brésil, je touchais le Brésil, il y avait l'odeur, il y avait le tact, etc. Alors, et ça, je vous parle de moi qui suis pauliste, vous vous connaissez, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène brésilien. J'aime beaucoup le Mexique. Je pense qu'il se passe des choses plus intéressantes au Mexique en ce moment, mais il n'y a pas ce côté, j'ose pas dire physique, parce que tout le monde va dire les moulatines. Non, c'est un pays qui vous entre par les 5 sens. Bon. Tandis que, évidemment, le pays auquel je reste le plus lié, qui est le Chili, c'est très différent, parce que le Chili, c'est un pays qui a des catégories beaucoup plus européenne, et pour moi, pour d'autres raisons, évidemment, le Chili, je ne peux pas parler du Chili de manière tout à fait objective, ce qui m'a toujours frappé au Chili, mais je dirais peut-être dans tout le sud du continent, c'est que c'est quand même un sous-continent de femmes. Alors que le Mexique, c'est quand même un monde d'hommes. Probablement le Pérou aussi. Mais en particulier au Chili, mais c'est vrai au Brésil et en Argentine, il y a quelque chose qui m'a profondément transformé, non pas seulement parce que j'ai vécu la plus grande partie de ma vie avec une femme chilienne, mais parce que c'est à travers l'Amérique latine, ce qui peut sembler bizarre, hein, que tout le monde dise c'est un continent macho et autres stupidités, c'est probablement à travers l'Amérique latine que moi, le petit Français qui avait été dans des classes préparatoires où il n'y avait pas de filles, etc., j'ai commencé à entrer un peu dans le continent féminin dans lequel je souhaite maintenant me noyer et terminer ma vie. Alors, je dois dire que j'ai connu le Brésil très peu après le Chili. J'ai connu le Chili pour faire créer un institut de recherche en 1956. J'ai été faire la même chose au Brésil, à l'Université de São Paulo, qui est la meilleure et à laquelle je suis maintenant à nouveau très lié, en 1959, donc à peu de distance. Et c'est en même temps des pays qui vivaient leur industrialisation.
Moi, j'ai l'impression que ce qui est, effectivement, il y a eu dans votre travail beaucoup d'étapes latino-américaines très différentes. Enfin, la première, c'est effectivement lié au thème du travail. Et pourtant, il y a déjà à ce moment-là, c'est-à-dire par rapport à quelque chose qui est très semblable à ce que vous voyez en Europe, la reconnaissance radicale d'une altérité, j'ai l'impression. Et j'ai un peu le sentiment que d'un côté, il y a là ce que vous avez pu apporter de mieux à la sociologie latino-américaine, c'est-à-dire une certaine manière de dire aux sociologues latino-américains « soyez vous-même », quelque part. Mais aussi des choses que vous dites assez souvent, c'est-à-dire la reconnaissance d'une altérité au sens le plus profond, enfin le plus intellectuel du terme. J'ai l'impression que c'est que votre... Je crois qu'il y a une histoire d'amour entre vous et l'Amérique latine qui passe par là, à mon avis. Moi, je me demande si des travaux des années 90 par rapport à la France même, comme Pourrons-nous vivre ensemble, si ces livres auraient existé, s'il n'y avait pas eu chez vous ce passage latino-américain. Et juste un mot, enfin, ce qui m'interpelle quelque part, c'est... Je me dis, mais ça pourrait être ailleurs. Enfin, vous avez fait un séjour américain avant de faire un séjour, enfin, avant d'aller en Amérique latine. Pour d'autres sociologues, je pense à Crozier par exemple, l'expérience américaine a été quelque chose de fondamental. Vous avez écrit sur les États-Unis, mais enfin, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de radical dans...
Oui, si le hasard des choses avait fait, m'avait fait aller ailleurs, je pense que je me serais passionné tout autant. Par exemple, je sais pas moi, un pays qui m'a touché beaucoup, qui est la Corée ou le Japon. Enfin, j'aurais été en Asie. Je ne m'imagine pas ayant une affaire d'amour avec la Scandinavie. Sauf l'Islande, que je trouve d'une grande chaleur, si je peux dire. Bon, alors, je reviendrai à ce qu'on disait tout à l'heure, parce que dans le cas de l'Amérique latine, si vous voulez, l'Amérique latine, c'est quand même un continent où il n'y a pas d'acteurs. Les gens croient que c'en est plein, il n'y a pas d'acteurs. Et donc, moi, j'ai cherché à analyser en termes d'acteurs ce que la plupart des latino-américains analysaient en termes de pure dépendance, de colonialisme interne, etc. Alors, comme nous le savons bien, l'Amérique latine a été dominée par un des grands débats intellectuels de l'époque, les Européens s'en fichaient par ignorance, qui était, est-ce qu'on peut expliquer la vie de ces pays, qui sont évidemment des pays dépendants, uniquement en termes de dépendance, ou est-ce qu'il y a une autonomie interne, des problèmes de classe, des problèmes nationaux, des problèmes politiques. Autrement dit, est-ce qu'il faut aller à la guérilla ou est-ce qu'on peut quand même avoir un espoir dans la démocratie? Ce n'est pas une mince question. Des milliers de gens ont perdu la vie pour ça. Et dans ce grand débat qu'on appelait le débat de la dépendance, vous savez très bien que je me suis mis intellectuellement du côté des gens qui disaient « oui, il y a de la dépendance, mais oui, il y a des conflits sociaux, mais oui, il y a des problèmes nationaux », dont le plus célèbre à ce moment-là était et est resté Fernando Henrique Cardoso au Brésil, mais il y avait beaucoup d'autres gens comme ça. Et c'est d'ailleurs à cause de ça que, beaucoup plus tard, c'est-à-dire en 1996, je me suis pris d'enthousiasme pour le mouvement zapatiste. J'y ai été quand ils ont fait leur grande réunion, avec de la boue jusqu'aux genoux et en dormant par terre. Et j'ai eu le sentiment que enfin le moment de la revanche était venu, que les guérillas s'étaient finies et qu'il s'agissait d'unir, disons, progrès social ou survie culturelle, non pas avec la révolution, mais avec la démocratie. Alors, quand j'ai dit ça à Marcos, c'était comme ça que je le lisais, il était très content. Et donc, on s'est revus et nous parlons en ce moment à un moment où il est tout à fait possible que le mouvement zapatiste soit fini, écrasé. Mais moi, je maintiens la position que j'ai eue, qui était l'émergence. Si j'avais été en Équateur, d'ailleurs, j'aurais eu la même image. Et je me permets de dire que toute cette dernière année, j'ai beaucoup cherché dans le Sud, Argentine surtout, j'ai beaucoup cherché l'émergence d'un acteur. Et cet acteur, je crois que je l'ai trouvé, et qui joue un rôle aussi important que les Indiens dans le Nord, c'est les morts. Je veux dire, c'est les disparus. Et j'ai participé à toute une série de réunions, dont une très intéressante à Madrid, organisée par les Argentins. Et je m'occupe personnellement du thème de ce qu'on appelle les archives de la terreur, c'est-à-dire tous les documents sur le plan Condor, les assassinats, Pinochet, etc. Et je vois renaître, plus en Argentine, beaucoup moins au Chili, mais je vais essayer de pousser un peu, je vois réapparaître une certaine conscience de l'action sociale à travers les morts, à travers les disparus, l'identité. Enfin, ce retour à la mémoire est quelque chose qui a valeur, non pas seulement politique, mais je dirais l'Amérique latine, elle se réveille un peu, au moment d'ailleurs où elle va au plus mal, elle se réveille avec des Indiens au nord, et des morts au sud.
Marc Ferro me faisait remarquer que vous étiez bien souvent normatif, c'est-à-dire que vous dites c'est important, c'est pas important, c'est positif, c'est, ça n'est pas positif. Alors on a envie évidemment de vous poser la question, est-ce que c'est le rôle du sociologue que de, d'émettre ce type de jugement, et si oui, qu'est-ce qui les fonde, qu'est-ce qui rend légitime ce type d'appréciation?
Ce type d'appréciation n'est pas une appréciation de type historique. Je veux dire, globalement, est-ce que le rôle de tel groupe est plus important que tel autre? Encore que l'historien ne puisse pas se dispenser de jugements plus modérés. Mais dans mon cas, il ne s'agit pas de ça du tout. Il s'agit de dire, je fais comme hypothèse, je définis comme mon travail de rechercher le type d'acteur historique qui remet le plus de choses en cause. Peut-être que c'est pas le mieux. D'ailleurs, j'ai toujours souligné que dire « voilà le plus important acteur historique » ne veut absolument pas dire que c'est celui qui joue le rôle historique le plus important. Ça, il faut absolument comprendre la nécessité de séparer ces deux affirmations. D'ailleurs, nous le voyons bien, on l'avait vu, je ne sais pas moi, chez les Occitans ou dans d'autres cas, où le rôle historiquement important, c'était plutôt celui des régionalistes qui cherchaient à développer la région avec pression sur les pouvoirs politiques, et pourtant nous donnions un intérêt plus grand à ces gens, quelquefois même un peu marginaux, mais qui essayaient de, comme on le voit aujourd'hui dans d'autres parties du monde, ou même de France, qui essayaient de donner un sens ou de révéler un sens plus élevé, j'entends par là, produit par des acteurs, qui répond à la capacité d'intervention d'acteurs qui mettent en cause les choses fondamentales. Je répète, ça ne veut pas dire qu'ils sont historiquement les plus importants. C'est comme, pour prendre une image classique, je dirais, dans l'ordre politique, je crois qu'on a parfaitement le droit de dire que Mendès France est un homme politique plus important que Mitterrand. Historiquement parlant, c'est faux. Historiquement parlant, Mitterrand est beaucoup plus important, président de présidence. Mais je dis, du point de vue de la question, si je me pose la question de la transformation de la pensée politique, il est probable que, il me semble que tout le monde dit plus ou moins, que je dirais que Mendès a eu un rôle plus important.
Je vais prendre exactement cet exemple, puisque vous citez Mendès, et on pense un peu à Rocard quand vous dites Mendès. Et vous avez évoqué tout à l'heure Michel Rocard. D'une certaine manière, on peut peut-être vous demander si ce jugement que vous proposez, et ça vous a d'ailleurs souvent été reproché, n'est pas un jugement historique, n'est pas un jugement non plus sociologique, mais peut-être un jugement moral et politique. C'est-à-dire, après tout, vos orientations ont toujours été proches, disons, pour aller vite, de celles de la deuxième gauche. Est-ce que votre jugement sur l'importance ou la non-importance, sur le caractère positif ou négatif de telle expression dans une lutte ou au cours d'une recherche, est-ce que ça n'est pas commandé par des orientations plus générales qui seraient non pas tant liées aux connaissances que vous produisez, mais liées des orientations, appelons-les, politiques?
Oui, je vais vous répondre vraiment avec des mots assez proches de ceux que j'employais. Puis l'exemple que vous employez, qui commande la vie politique française, je vais répondre tout à fait franchement. Le problème, j'ai le droit de dire, et puis beaucoup de gens disent, que le problème français ou des pays européens, c'est de trouver quelles sont les forces sociales qui sont capables de donner vie, conflit, etc., à une situation économique qui a énormément changé. Autrement dit, moi je le dis tout à fait clairement, si on en reste à ce qu'on appelle la vieille gauche, c'est-à-dire les interventionnismes étatiques, il ne se passe rien. Je veux dire, on a affaire à ce qu'on voit, c'est-à-dire une grande lenteur dans la transformation de la société française. Si, au contraire, j'allais dire, vous êtes dans une société qui accepte des transformations et qui laisse tomber un certain nombre de choses du passé, vous courez les plus grands risques de vous abandonner au capitalisme le plus, le plus libéral et le plus extrême, si vous n'avez pas défini. Alors, je dis en sociologue, et ensuite je reviendrai sur, je dis en sociologue, il est impossible de ne pas rechercher quels sont ces nouveaux acteurs possibles. Je vous dirais d'ailleurs que là-dessus, nous n'avons pas tellement progressé. Je veux dire, par exemple, je défends tout à fait l'idée que nous avons un besoin central d'une nouvelle forme de mouvement syndical et ouvrier. Bon, c'est une hypothèse. Je ne vous dis pas que ça va renaître. Ça, c'est le jugement historique. Et je pourrais, comme ça, prendre beaucoup d'exemples. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai énoncé des propositions très générales, comme le passage à une vision individualiste. Je m'amuse souvent à dire la gauche est individualiste, la droite est collectiviste aujourd'hui, puisqu'elle croit au marché, ou etc. Sans parler du thème des femmes, auquel je donne une importance de plus en plus grande. Alors, ça, je suis obligé de dire ça. Je ne peux pas proposer qu'une société soit des rapports d'opposition pour le contrôle des modèles ou des ressources culturelles et plus grandes sans essayer de donner un contenu à ça. Alors, est-ce que mon jugement est juste historiquement? Alors, là, quand même, revenons au point de départ, c'est-à-dire que la méthode d'intervention sociologique est faite pour ça. Et vous savez, par expérience comme moi, que si on se trompe, dans les semaines et les mois qui viennent, l'hypothèse fausse crée de la confusion et il faut la rejeter. Ça nous est arrivé une fois à propos des Occidentaux de rejeter une hypothèse et d'en présenter une autre qui était plus modeste. Donc, j'insiste, quitte à apparaître scandaleux, j'insiste sur le fait que quand vous croyez à une sociologie, disons, de l'acteur pour parler vite, vous êtes obligé de dire, dans un monde qui est refroidi, comme aurait dit Gurvitch, où il y a des structures, des institutions, des discours, des idéologies, il faut bien que vous, vous preniez vos risques. Et que vous disiez, je pense que derrière tout ça, on voit apparaître, ou on voit agir, des acteurs qui sont essentiels. C'est pas, vous comprenez, c'est pas un jugement de valeur, c'est un jugement de centralité, de signification. Il y a des gens qui sont peu signifiants et il y a des gens qui sont plus signifiants. Cela dit, il y a des gens qui sont très insignifiants et qui jouent un rôle historique déterminant.
Oui, mais on a quand même du mal à comprendre comment ça fonctionne. Je veux dire, comment fonctionne la machine. Parce que d'un côté, on peut se dire, le rôle de l'intellectuel, c'est notamment de Touraine, c'est qu'il a une théorie qui finit par avaler le plus de choses possibles, etc. Et de l'autre côté, quand vous vous expliquez, vous accordez aux événements historiques auxquels vous avez participé, dans lesquels vous avez été engagé, un rôle historique essentiel. Donc, comment, au fond, vous construisez votre pensée, comment vous construisez, d'une certaine manière, votre vie, en disant... j'ai une construction rationnelle, scientifique, entre guillemets, des choses, et en même temps, mai 68 change tout ça, la Pologne change tout ça, le Chili change tout ça, la décomposition de la gauche, qui était un peu prévisible chez vous, change tout ça. C'est quand même quelque chose qui vous rend, ça n'est pas un jeu de mots, ça sera en plus un mauvais jeu de mots, mais ça vous rend peu lisible d'une certaine manière, parce que, on a l'image d'un intellectuel qui construit une machine, ou on a l'image d'un autre type d'intellectuel qui réagit à l'événement. Or, vous, vous êtes quelqu'un qui... Vous passez de l'un à l'autre avec une grande continuité pour vous, mais qui fait qu'on peut s'épuiser à vous courir derrière.
Ah, écoutez, je vais vous répondre en rouvrant quelques blessures qui m'ont touché beaucoup, vous aussi, ou Vivorca aussi, un peu. Parce que quand même, à plusieurs reprises dans ma vie et dans la vôtre, on a vu des sociologues prendre une position inverse. C'est-à-dire dire, cet énorme événement sur lequel il y a un accord, nous ne lui accordons pas une importance. Hein, c'est évidemment la grève de 95. Bon, alors moi, je suis encore cicatrice ouverte des attaques menées contre nos positions en 95, et vous en savez quelque chose aussi, et je dirais que tout m'engage. Nous sommes quand même 6 ans après. Tout m'engage, tout vous engage à maintenir strictement l'interprétation que nous avons donnée, et qui n'en est d'ailleurs pas du tout de l'importance historique. Personne ne l'a nié. Bon. Mais qui donne une analyse du sens donné à ce mouvement, pas par tous, mais par les plus visibles, qui donne de cette interprétation une explication, enfin, qui porte dessus un jugement très négatif. Et ça, moi, je crois qu'il faut être ici engagé au sens de « je fais des hypothèses dont je sais qu'elles peuvent être dites fausses » dans un délai relativement bref. Et moi, je crois que l'analyse sociologique, elle ne peut pas éviter ce jugement. Dans une situation bien différente, Max Weber n'a jamais rien dit d'autre. Il faut, je vais parvenir à des événements fâcheux récents, mais de thèse en Sorbonne, mais il faut, quel que soit le mode de connaissance que vous devez, il faut qu'il y ait des mécanismes de preuve et de ratification. Or, je pense que ce qui a été fait sur, en positif et en négatif, je veux dire, quand même beaucoup de cas où nous avons pris les uns et les autres des positions négatives. Vous êtes probablement le mieux placé. Parce que Vivorca, il a pris des sujets qui étaient évidemment négatifs. Je veux dire, le racisme, la violence, etc. Vous vous attendez difficilement à une réhabilitation. Mais vous, vous avez vécu la galère, vous avez cherché un acteur et une notion de rage, et puis autour de vous, des centaines de gens cherchaient de la rage. Et puis il est venu un moment où vous disiez, il n'y a même plus de rage. Bon, donc vous avez quand même été amené à conclure à un moment donné, pas forcément aussi simplement que je le dis, par « ça fout le camp ». C'est-à-dire, il n'y a plus rien. Et moi d'ailleurs, je pense, enfin, nous en avons tous fait l'expérience, et aussi à travers des thèses dont nous nous sommes occupés, que ceci nous a conduit à chercher à définir la capacité d'être acteur en d'autres termes. Mais je répète, il ne s'agit pas de parler d'importance historique, il s'agit de poser des critères d'évaluation, c'est-à-dire jusqu'à quel niveau, organisation, institution et, disons, mouvement social, si vous voulez, jusqu'à quel niveau une action collective remet les choses en cause. Et je prends des exemples tout à fait passés de mode, si je peux dire, ou de sortie de notre mémoire. Au commencement de ma vie, j'ai eu beaucoup à m'occuper de l'évolution du travail ouvrier et donc à connaître quelque chose de la grève Renault de 1913. C'est une grève capitale. Je ne dis pas que c'était la plus... C'est la première grève où les problèmes de la destruction du travail par l'organisation, par le fordisme, sont conscientes. Mais conscientes, mêlées à d'autres choses. Mais si j'avais eu à faire, en historien, une étude sur cette grève, qui est certainement mieux, parce qu'il y a des historiens qui ont fait des choses très analogues, je crois que j'aurais pu dire pourquoi je pense qu'elle a eu un rôle tout à fait central dans l'histoire de France.
Il y avait dans la question de François une autre dimension, me semble-t-il, à savoir en quoi la recherche que vous faites ou en quoi l'événement auquel vous êtes confronté vous transforme vos hypothèses, et je dirais presque à la limite, vous transforme vous-même. Autrement dit, vous n'êtes pas certainement, en tout cas c'est l'expérience que j'ai du travail avec vous, vous n'arrivez pas sur un problème ou sur un autre avec des certitudes définitives. Vous pouvez bouger, la relation avec les gens avec qui vous travaillez vous transforme.
Nous n'arrivons ni les uns ni les autres avec des certitudes. Nous arrivons avec, non pas une certitude, mais enfin une opinion assez forte sur la nature des questions qui sont en cause. En tout cas, quelle est la réponse? Nous ne l'avons pas, je l'ai dit parce que je l'ai vécu comme vous-même. Il est arrivé, pour parler clairement, qu'on se plante et qu'on en soit malheureux. Moi, je me rappelle, ces jeunes étudiants, on était complètement affolés parce que On s'était tellement trompé sur le sens de leur mouvement, et ils s'étaient aperçus qu'ils s'étaient trompés, qu'il y en avait un ou deux qui étaient au bord du suicide. Donc, alors vous me dites, dans quelle mesure sommes-nous transformés? Moi, je dirais, si vous voulez, j'aurais une position assez limitée. Je dirais, il existe un risque permanent de faire ce que vous avez dit, c'est-à-dire d'avoir sa petite machine à moudre de l'histoire. Et en fait, quand vous voyez des populations, que vous êtes fortement engagé dans une interaction avec des populations, votre risque de faire fonctionner la petite machine diminue. C'est la raison pour laquelle, moi, je dis, comme tous les gens en sciences humaines, que ce soit l'anthropologie, l'histoire ou la sociologie, il faut qu'il y ait une quantité raisonnable de terrain dans votre vie. Et moi, je pense que j'ai passé une dizaine d'années, puis une autre dizaine d'années, à faire du terrain, et mon ami Kostrokhava voudrait bien que j'en fasse encore un certain nombre d'années. Donc, là-dessus, je dirais, il faut être très empirique, avec des hypothèses théoriques très fortes, et donc une capacité de se laisser pénétrer. Si, vous comprenez, le chercheur dans notre intervention sociologique, il est celui qui apporte l'hypothèse. Donc, il prend un rôle, j'allais dire, oui, enfin, disons presque, il essaie de créer un transfert positif. Et ça marche ou ça ne marche pas, ça ne le laisse pas indifférent. Bon, mais je suis modéré dans la mesure où nous connaissons, vous connaissez, comme moi, des cas de chercheurs qui s'identifient si fort à l'objet, qu'ils se créent une relation amoureuse entre l'objet et le chercheur, et à ce moment-là, l'échec est tout à fait prévisible.
Je voudrais déplacer un instant la discussion, parce que j'ai eu le sentiment qu'Angelina n'avait pas eu pleinement satisfaction dans les réponses que vous lui aviez apportées, qu'en particulier sur le thème des morts, elle n'était pas tout à fait d'accord avec vous.
J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on vit un grand problème en Amérique latine, qui est celui de la construction de la démocratie. Lorsque vous évoquez la question des morts, évidemment, ça fait partie de ça. Lorsque vous évoquez le Chiapas, ça fait partie de ça. Mais il y a d'autres choses que peut-être ne relèvent pas simplement des acteurs d'en bas, de la mémoire. Alors j'aimerais bien que vous en disiez un petit mot.
Là, je suis obligé de répondre en termes un peu de jugement historique parce que les choses sont assez visibles. J'ai une image catastrophique de l'Amérique latine. Je pense qu'il n'y a presque plus de capacité d'action politique. Je pense que la quasi-totalité des pays va voter les propositions américaines sans aucune difficulté. La seule résistance étant celle du Brésil, qui n'a aucun sens si elle ne s'appuie pas sur l'Argentine, et ce qui suppose aussi que l'Europe occidentale s'appuie sur Mercosur. Ce que je dirais, et je l'évoquais d'un mot tout à l'heure, ce qui me préoccupe toujours en Amérique latine, c'est la faiblesse des acteurs. L'Amérique latine, elle est pleine, elle a toujours été pleine de situations révolutionnaires. Or, il n'y a pas eu beaucoup de révolutions. Il y a la révolution mexicaine qui trône. Je dirais qu'il y a la révolution paysanne bolivienne de 1952. Et au risque de déplaire, je dirais qu'il y a eu le mouvement sandiniste au Nicaragua qui a été une révolution. Naturellement, Cuba n'est pas une révolution. Cuba n'a jamais voulu être une révolution. Cuba est une guérilla dure, un faucon qui gagne. Ce qui est tout à fait une autre réalité historique. Pour le reste, les acteurs sont mous, les acteurs sont mélangés les uns avec les autres, et nous avons beaucoup de difficultés à les isoler. C'est la raison, d'ailleurs, les circonstances me font penser, puisque j'ai eu à en parler il y a vraiment très peu de semaines, en pensant à un ami, Vinicius Caldeira Brandt, qui est mort tout récemment, qui est un Brésilien pauliste, et qui a été fortement torturé à São Paulo, puis transféré à Rio, où j'ai pu aller le visiter plusieurs fois dans sa prison. Bon, cet homme-là, et disons, il y a eu un mouvement, c'était des mouvements, un mouvement catholique, très radical, ces gens-là ne laissent aucune trace. Disons, soyons francs, ils ne laissent aucune trace. Les enfants, dans 20 ans, bon. Or, je pense que ces gens-là, non pas pour beaux gestes, etc., mais je pense que des gens comme ça ont fait apparaître, y compris par leur souffrance, mais par leurs paroles, ont fait apparaître un élément tout à fait fondamental des dictatures militaires, puisque ça se passe vraiment entre 70 et 72, c'est-à-dire la pire période de la dictature militaire au Brésil. Et je dirais même, en prenant un exemple qui est pour moi un peu ambigu, mais je reconnais, moi qui suis très anti-guérilla, très anti-miriste, etc., je dirais que le rôle des guérillas internes, je répète, sur lequel je porte un jugement éminemment négatif, tout pas mal, os montoneros, etc., je dirais que ces gens-là ont fait apparaître un niveau de la situation qui est essentiel, c'est le niveau non traitable politiquement. Et là, vous faites allusion à quelque chose qui est essentiel, c'est que le mouvement, enfin, le système politique ne peut pas bien fonctionner quand il a en arrière-plan 50, 60, 70% de la population qui est en jeu. Notre ami Cermeño, en ce moment, à propos du Mexique, nous rappelle toujours qu'au Mexique, 50% de la population est hors jeu, hors des partis, politiquement participe par des caudillos locaux plus ou moins pourris, etc. Et vous savez bien que le cas brésilien est plus impressionnant encore, puisqu'il n'y a plus tellement de misère rurale au Brésil, puisqu'elle a été remplacée par la misère urbaine, et que São Paulo, que vous connaissez mieux que moi, est un exemple extraordinaire d'une ville qui s'échappe à elle-même. Et donc, quand on voit ce formidable déficit d'acteurs, on se demande pourquoi, et on peut faire une recherche faisant des hypothèses que l'on présente pour dire... Bon, et alors, en effet, ce qui est normatif, c'est de dire, je considère comme hypothèse positive que les acteurs interviennent sur leur situation et ne soient pas simplement portés par des... Je le dis aussi d'un point de vue... comment dirais-je, intellectuel, puisqu'il y a tellement de gens qui aiment bien expliquer les phénomènes par l'extérieur, par la conjoncture économique, par n'importe quoi. Moi, je suis, ça c'est un choix qu'on peut critiquer, mais en effet, je ne dis pas c'est toujours les acteurs qui décident, je ne dis pas ça. Je dis je veux toujours chercher d'abord la présence d'acteurs, quitte à conclure qu'il n'y en a pas.
Farhad, tu as publié récemment avec Alain Touraine un dialogue sur le thème du sujet. Ce dialogue vient conclure, mais peut-être aussi inaugurer d'ailleurs, une période, en tout cas une douzaine d'années de travail et de publication chez Touraine. Critique de la modernité, qu'est-ce que la démocratie, pourrons-nous vivre ensemble, c'est-à-dire des ouvrages qui posent des questions qui n'étaient pas tout à fait celles auxquelles nous étions habitués aussi nettement ou aussi explicitement de le voir fonctionner.
En fait, moi, ce travail que j'ai fait avec Alain Touraine, qui s'est échelonné sur 2 ans, pratiquement, 99-2000, et qui a été publié sous le titre de « La recherche de soi », titre qui en soi est très évocateur, me semble procéder autant d'une certaine continuité, comme l'a dit Touraine il y a un moment, mais aussi d'une certaine discontinuité. Je pense que j'aimerais bien l'interroger là-dessus, à savoir, en un sens, comment il perçoit cette discontinuité, parce que quand on parle, et quand il parlait, ou quand nous parlions de l'acteur social, c'était toujours l'acteur d'un mouvement social. Il n'y avait pas d'acteur social sans mouvement. Or, le sujet, évidemment, il peut être acteur de ce qu'on pourrait appeler des mouvements culturels, quelquefois de mouvements sociaux, mais n'empêche, le lien n'est plus aussi étroit, en quelque sorte, avec ces mouvements. Et d'ailleurs, les expressions comme « pourrons-nous vivre ensemble » où la recherche de soi montre très bien la dimension qu'on pourrait appeler existentielle du sujet par rapport à l'acteur social qui, quoi qu'on en dise, est quand même très, très lié à des phénomènes collectifs, à des mouvements collectifs qui, en un sens, ont la dragée haute sur lui, même s'il tente de dépasser les tensions, remettre en cause, disons, l'état de fait de la société, etc. Donc, j'ai l'impression qu'avec la notion du sujet, d'une part, il y a cette espèce d'indissociabilité entre mouvement social et acteur social qui est remis en cause, et d'autre part, j'ai l'impression qu'il y a aussi une importance beaucoup plus radicale accordée à ce qu'on pourrait appeler la vie privée, les aspirations de soi et ce que Touraine appelle quelquefois le jeu dans la manière dont il conceptualise ces notions. Un dernier point, j'ai l'impression que vraiment, c'est tout au long de ce travail que je m'en suis rendu compte, qu'il y a une acuité du regard de Touraine qui prévoit des choses qui, quelquefois, par exemple, plusieurs années après, se trouvent être dans le champ de mire, en quelque sorte, des sciences sociales. Et là aussi, j'ai été étonné de voir ô combien c'était un regard neuf, même s'il y a toujours des précédents, des antécédents, des gens qui ont travaillé sur ces phénomènes. Mais je veux dire, cette nouveauté du regard qui me fait penser qu'il a une sorte d'éternelle jeunesse, malgré quelquefois les défaillances du corps, comme ça survient. Et donc, en un sens, je me demande si c'est pas ça l'un des traits fondamentaux, autant de son caractère que des topics, en quelque sorte, du terrain dont il s'est occupé tout au long de son existence en tant que sociologue.
Un jour, je l'ai entendu dire, il y a quelques années, à propos d'une autre période, quand j'étais vieux, j'avais trouvé ça très bien.
Écoutez, c'est très difficile parce que si on parle, disons, biographie, il est évident qu'il y a toujours pour tout le monde plusieurs choses à la fois. Alors je vais essayer de dire les choses aussi sociologiquement que je le peux. Il y a mai 68, prédominance des problèmes culturels. Il y a le lent affaissement du discours marxiste, le rapide affaissement des actions syndicales, politiques liées au mouvement ouvrier. Bon, il y a toute une série de choses comme ça. Et puis, pour moi, il y a quand même cette période capitale et période longue où je m'éloigne passablement de la, j'allais dire, du monde professionnel, pas complètement évidemment, pour vivre avec ma femme sa maladie qui était très grave dès le départ et qui a conduit à sa mort à la fin de 90. Et donc, j'ai été amené intellectuellement, biographiquement, à considérer que les grandes choses se jouaient sur le registre privé, en partie aussi parce que le registre public était occupé par des discours répétitifs, insupportables, etc. Mais enfin, l'essentiel, c'était quand même de dire cette société dans laquelle nous entrons est une société où les problèmes d'information, de communication, donc culturels, sont les plus importants. L'élément nouveau, il est un peu différent. C'est que moi, je pensais à ce moment-là que nous pourrions rapidement étudier des mouvements sociaux liés à cette transformation, c'est-à-dire la manière dont l'information est utilisée dans le monde médical, et hospitalier, est utilisée dans le monde des médias, est utilisée dans le monde de la recherche ou de l'enseignement. Or, comme vous le savez bien, dans notre centre, il y a un certain nombre de gens qui ont été encouragés à étudier ça. Et puis il est arrivé dans les années 90, le fait simple, c'est que ce n'est pas le contenu de la société nouvelle qui était le plus visible, mais le processus de formation, c'est-à-dire, pour appeler les choses par leur nom, le fait que nous venons de vivre une période de capitalisme extrême, très différent de 1890-1910, mais qui quand même a en commun, c'est cette extrême perte de contrôle du politique, du social, du culturel, sur un monde économique qui est mondialisé. Et donc, Moi, ce que je dirais, c'est que j'ai voulu, essentiellement dans ces trois livres, enfin pour moi, il y en a un qui est moins important, le livre sur la démocratie, moins important, mais disons, le livre sur la modernité est capital, puisque qu'est-ce que j'ai défendu comme thèse? J'ai défendu non pas l'idée que la modernité, c'est la rationalisation ou la sécularisation, mais que la modernité, c'est la séparation de l'objectif et du subjectif qui étaient encore liés dans Dieu ou dans le droit naturel, et que par conséquent, on a une vision là-dessus, une vision cartésienne, des deux mondes. Et que le problème de la modernité, c'est comment établir un lien entre les deux mondes, entre la culture et l'économie. Et pendant 200 ans, on a eu une idée géniale au XVe siècle, qui était de dire la seule force qui peut unifier, c'est la politique. Et même, on pourrait dire, la citoyenneté. Enfin, c'est l'enseignement de Machiavel, c'est l'enseignement de Thomas More, un peu plus tard, c'est l'enseignement de Jean Bodin, etc. Alors, moi, j'arrive à un moment où on est au bout de la modernité. J'accepte bien les expressions de Habermas ou de Giddens, enfin, le capitalisme tardif ou l'industrialisation tardive, etc. Et à ce moment-là, ce que j'observe, c'est que tout ça éclate. Il y a d'abord la globalisation des marchés, de l'autre côté, il y a le communautarisme, les mouvements religieux, etc. Le politique s'écroule entre les deux. Et moi, ma question, c'est qu'est-ce qui peut aujourd'hui retenir ensemble? Et alors, je me dis, mais bon, les réponses à la Kant, ça ne marche pas. Il n'y a pas d'universalisme abstrait, et même la solution à la Habermas, qui est de dire, à travers, non pas le sujet, mais la relation entre la communication entre sujets, on va remonter. Et moi, je suis arrivé, et c'est ça le changement, si vous voulez, intellectuel, je suis arrivé à l'idée que cette jonction entre le projet ou l'expérience culturelle d'un côté et la situation économique de l'autre, que ce lien ne pouvait se produire qu'au niveau de l'individu. Ce qui veut dire que chacun d'entre nous a conscience d'appartenir à un système économique qui est de plus en plus mondialisé et en même temps d'avoir envie et effectivement de se rattacher, d'évoquer, je dis un projet culturel, parce que ce n'est pas uniquement des racines, c'est peut-être aussi des choses inventées ou reformulées, comme le disent souvent les ethnologues. Et ça donnait donc, si vous voulez, à cette affirmation de l'individu, une importance sociologique décisive. Dans mon livre sur « Pourrons-nous vivre ensemble ?», sous-titre « Égaux et différents », c'est quand même un des grands problèmes théoriques de la sociologie et que j'ai vécu intensément, puisque, disons, les plus grands anthropologues, Louis Dumont, Clifford Geertz, l'un par écrit, l'autre oralement, me disaient « Égaux et différents ?» Impossible. Bon. Et donc, j'ai fait toute une réflexion qui, d'ailleurs, m'a amené ici à mettre sur le devant de la scène le mouvement des femmes et les transnations, puisqu'il y avait eu un mouvement qui disait égalité, un mouvement qui disait différence. Tout ça a disparu, et aujourd'hui, vous demandez à des femmes ou à des hommes, et le thème de égalité et différence est apparu, d'ailleurs, sans être vraiment étudié, enfin, occupe aujourd'hui une place centrale. Et en effet, je ne dirais pas que c'est l'individu en tant que tel qui joue un rôle essentiel, mais c'est cette espèce de radicalisation de ma pensée, que d'ailleurs vous avez mieux formulée que moi, en disant il faut passer du thème de l'acteur social au thème du sujet.
Est-ce que vous êtes toujours sociologue dans cette opération? Parce que pour être sociologue, il faut faire l'hypothèse minimum d'une existence sociale, c'est-à-dire d'une intégration du système, pour parler de manière abstraite, et d'une intégration des acteurs. Il faut faire l'hypothèse qu'il y a quelque chose qui tient vaguement comme une machine. Or là,
non, alors
en
là,
passant... Non, non, mais j'ai lu vos livres, même très vaguement. Tandis que là, vous êtes allé si loin de l'autre côté que l'on peut se dire... Touraine fait de la philosophie politique en se demandant comment on peut combiner l'égalité et la différence. Il est au fond devenu une sorte de penseur de l'expérience ou de l'existence en disant La société, c'est des mécanismes objectifs, systémiques, on n'a plus rien à en dire. Et ce qui compte maintenant, c'est de penser le sujet tout à fait en dehors de ça. Ce qui est tout à fait acceptable. Mais
non, ce n'est pas ma position.
On peut parfaitement... Oui, mais ce n'est pas votre position, mais j'aimerais bien comprendre en quoi ce n'est pas votre position. Ah, parce qu'on peut, quand même vous lire un peu de cette manière.
Oui. Bon. Il faut radicaliser un peu.
Oui, ça.
Je veux dire par là que... Oui, en effet, comme vous savez, il y a 25 ans... J'ai fait un congrès de sociologie, une communication qui s'appelait « Comment se débarrasser de l'idée de société ?» Et j'ai répété ce thème-là encore il y a quelques jours. Dans notre livre, on parle de désocialisation tout le temps, etc. Ce que je crois, c'est qu'en effet, l'idée de société, système social, a sauté. Les marxistes l'avaient déjà annoncé il y a 150 ans. Et aujourd'hui, nous avons face à face, je dirais, un monde de pouvoir au sens Foucault. C'est-à-dire des catégories qui organisent la perception et l'activité. Monde du pouvoir qui est plus ou moins lié, assez fortement lié en réalité, au monde de gestion de la division du travail, disons. Le monde de la direction économique. Et en face de ça, ça c'est un conflit. Et c'est donc pourquoi il y a mouvement social. En face de ça, qui est, disons, les forces dirigeantes, si vous voulez parler comme ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a mon sujet, c'est-à-dire qui proclame, et c'est un point essentiel parce que nous vivons tous comme ça, qui est, oui, le monde est unifié, oui, il y a des... Monsieur Soros manie des milliards de dollars, etc. Et je ne veux pas dire qu'on est dans une mid-generation, mais les gens, je l'observe, et je suis prêt à faire des études de terrain là-dessus, vous et moi, nous nous disons, mais en quoi consiste mon unité? C'était déjà la grande préoccupation de Walter Benjamin, et c'est aujourd'hui la préoccupation de plusieurs types de personnes. Donc, la question qu'on se pose, c'est, et je vais ajouter encore un acteur, c'est comment se fait ce conflit. J'ajoute que le sujet social, enfin le sujet tout court, cette référence de soi à soi, est renforcée par l'appel à encore autre chose de non social, et je dirais jusqu'où je vais dans ce sens-là, qui est ce que j'appelle l'expérience anthropologique, mais qui est quand même essentiellement la sexualité. Donc aujourd'hui, vous avez une lutte entre pouvoir plus économie contre, j'ai envie de dire, morale, si vous voulez, et sexualité. Et c'est un affrontement. Socialement, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais aller encore beaucoup plus loin. Socialement, ça veut dire que grâce sociale, grâce à nous, grâce à nous, dans nos pays, nous voyons ce monde du pouvoir et d'économie reculer, y compris parce qu'il est virtuel ou mondial. Et en revanche, on voit avec beaucoup de difficultés progresser ce que j'appellerais volontiers des contre-institutions, c'est-à-dire celles qui défendent le sujet contre la société. Alors nous nous battons à l'école, vous plus efficacement que moi, pour avoir une école centrée sur le sujet. Il y a un domaine au contraire où les choses se sont plutôt bien passées, c'est la famille. Si vous dites à un programme de télévision, la famille, messieurs, dames, c'est fait à transmettre les valeurs matérielles et culturelles du passé, on vous rigole au nez. Si vous dites la famille, c'est essentiellement nécessaire pour qu'un gamin soit capable de marcher sur ses deux jambes, les gens me disent, bien sûr, bien sûr. Et les règles générales du droit sont de plus en plus individualisées. Moi, je suis là-dessus plutôt optimiste, car je vois s'étendre le monde des droits. Et j'ajoute, et c'est là quand même très sociologique, je l'ai indiqué tout à l'heure, on s'est battu il y a 200 ans pour les droits civiques, on s'est battu il y a 100 ans pour les droits sociaux, on se bat aujourd'hui pour les droits culturels. C'est pourquoi l'acteur qui est en jeu, c'est pas l'homme citoyen de la Déclaration des droits, c'est l'homme citoyen, mais qui est aussi travailleur, mais qui a aussi des attachements ethniques ou religieux ou sexuels, tout ce que vous voudrez. Donc, moi, ce que je vois, c'est déjà une transformation du champ politique très très grande. Ce qui gêne, vous gêne, me gêne, c'est que, alors là nous le sentons tous avec une certaine force, que tout ça se passe sans acteurs constitués. Alors je dirais assez à la course au canard que je tends à sous-estimer l'autre aspect des choses, c'est-à-dire le chaos, ou la désubjectivation, comme on dit. Alors, peut-être parce que je suis de tempérament plutôt optimiste, je dis oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai, mais moi, je vois quand même se constituer des acteurs, appelons-les politiques. Bon, je reprends mes comparaisons historiques. Il y a 200 ans, on a inventé des partis, il y a 100 ans, on a inventé des syndicats, aujourd'hui, on invente les associations, les ONG, et ce que nous appelons la société civile, en sachant que c'est un nouvel étage de la société politique. Et ça, il faudrait quand même ne pas oublier qu'aujourd'hui, il y a 35 000 ONG dans le monde. Il y a 10 ans, il y en avait 350. Bon. Et ça intervient de manière... Donc, si vous voulez, moi, je me sens tout à fait décidé à parler, à passer de plus en plus de ce côté plus sociologique que... Je vais vous prendre un autre exemple plus concret. Cette année, mon séminaire a porté sur les femmes et essentiellement sur des thèmes comme analyse critique de la notion de genre ou discussion critique sur la conception de la sexualité chez Freud, etc. Et j'avais déjà mon thème, disons, égaux et différents ou égales et différents. Mais l'année prochaine, je vais m'efforcer de... Et je dois dire aussi parce qu'il y a une littérature magnifique sur toutes ces choses-là qui vient des lesbiennes américaines où il y a de la grande philosophie politique. Mais j'ai annoncé il y a quelques jours que l'année prochaine, je vais essayer de transposer ça en termes encore psychologiques, si vous voulez, le rôle de la séduction, le rôle des relations amoureuses... mais aussi et surtout en termes de « y a-t-il mouvement des femmes ?» Et je vais même, j'irai même plus loin, puisque j'essaierai, comme un homme du 19e siècle finissant, j'essaierai de montrer que de même que le mouvement ouvrier a surdéterminé les autres mouvements d'un type ou d'un autre, aujourd'hui c'est le mouvement des femmes qui tend à surdéterminer les autres, ce qui va peut-être un peu loin, mais enfin, j'ai plutôt envie d'aller dans ce sens-là. Donc, si vous voulez, ce que je crois, c'est que nous sommes en train, enfin, nous devons nous habituer à vivre dans des situations qui n'ont plus, sous la forme de société ou de mode de production, qui n'ont plus, comment dire, la charge de l'explication. Je pense profondément, je ne pense pas être en désaccord avec Kosokawa là-dessus, que ce qui est explicatif des situations, c'est les acteurs. Vous comprenez ? Et les enjeux... Alors, je termine là-dessus en disant à quel point je veux aller loin, 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 loin. Aujourd'hui, mon but intellectuel principal, et c'est en ce sens-là qu'en effet, on peut douter de mon sociologue, je suis antisociologiste à mort, je dirais une sociologie, une société, au moins quand elle est vivable, repose sur du non-social. Quand une société ne repose que sur du social, elle tend à être totalitaire. J'ai eu l'occasion, il y a 2 ans, d'écrire un assez long papier sur l'utopie, avec les bons et les mauvais côtés, et je suis persuadé que l'utopie, c'est la société qui ne dépend que d'elle-même. C'est le doux, ou c'est Thomas More, ou c'est Orwell, enfin disons... Et aujourd'hui, c'est pour ça, même si je disposais encore d'une cinquantaine d'années, je ferais comme tous les sociologues, tous les grands, je veux dire, j'étudierais la religion. C'est-à-dire qu'il y a, enfin, à la Max Weber, si vous voulez, il y a, mais d'une autre manière, je veux dire que dans la religion, je trouve tout ce qu'en plus je déteste, c'est-à-dire la défense de l'ordre établi, l'identification avec un peuple élu, une communauté, etc. Mais je maintiens, et alors là-dessus, on se l'a ici, je suis laïque comme tout le monde, Mais je trouve aussi dans la religion une forme projetée au dehors, entäußert, comme dit Hegel, du sujet. Et donc, j'aime chercher chez les mystiques espagnols, dans la méditation bouddhiste, j'aime chercher cette espèce de au-delà de la société. Et je crois que sans cet au-delà de la société, il n'y a pas fondamentalement de démocratie possible.
Oui, mais lorsque vous rencontrez Costrocava et que vous discutez avec lui, lui qui nous vient justement en partie, pas exclusivement, mais assez largement du thème religion, lui il vous dit mortifère, martyrisme, désubjectivation, enfin il vous parle de choses extrêmement négatives. J'aimerais assez que vous poursuiviez un tout petit peu votre échange sur le mode, est-ce que vous êtes complémentaire, est-ce que vous êtes en tension ou est-ce que l'un doit gagner sur l'autre? Autrement dit, quelle est la nature de cette opposition qu'on peut déceler dans ce dernier livre entre un point de vue, je le dis très sommairement, optimiste et un point de vue sombre?
Je vous laisse répondre d'abord.
Moi, en fait, je renoue avec la question de Michel et en partie avec celle de François. J'ai l'impression que votre nouveau discours, mettons à partir des années 90, avec les trois livres et puis finalement cet entretien et le nombre d'articles qui ont été publiés entre-temps, remet en cause la cohérence d'un certain type de discours sociologique auquel vous aviez participé. Cela ne veut pas dire que ce discours était mauvais, mais j'ai l'impression que maintenant, de plus en plus, d'ailleurs, nombre de sociologues, et ceux qui sont présents ici, y participent aussi, votre discours, en un sens, intègre maintenant, de manière beaucoup plus active, des apports de ce qu'on pourrait appeler la philosophie. Le thème du sujet, Dieu sait ô combien, ça a quand même des précédents philosophiques, auxquels d'ailleurs vous faites référence, mais aussi de l'anthropologie, de la philosophie morale, bref, de la psychologie, du psy, enfin comme vous appelez. Bref, moi j'ai l'impression que c'est l'économie du discours sociologique qui change du fait même du déplacement de la thématique de l'acteur social à la notion du sujet. Je ne veux pas en exagérer la portée, mais j'ai comme le sentiment qu'il y a une nouvelle architectonique de la pensée qui se met en branle avec tout le malaise que l'on a lorsqu'on passe d'un certain type de discours sociologique ou sociologico-centré à un discours qui a quand même une pluralité de centres. Et je crois que là aussi, c'est un apport nouveau qui peut nous poser problème, c'est-à-dire en tant que sociologue, on avait l'habitude précisément de raisonner en des termes que vient d'annoncer Dubé, mais je crois que là aussi il y a une nouveauté et chacun d'entre nous à sa façon en prend acte. Pour ce qui est de cette espèce de dichotomie désubjectivation-subjectivation, et je crois que là aussi c'est l'un des traits intéressants de votre travail et aussi de Michel, qui a travaillé sur le terrorisme, qui a montré que jusqu'au fin fond, en quelque sorte, de cette dimension destructive, on peut trouver un certain nombre de noyaux, en quelque sorte, de l'acteur ou du sujet. Et en cela, d'ailleurs, ses travaux sur la culture me semblent être symptomatiques de cette nouvelle tournure. Et donc, en un sens, vous avez pu imprimer à notre groupe restreint, vraisemblablement au-delà, cette tendance à la diversification et à la construction d'une nouvelle économie du discours, je pense.
Écoutez, ce que vous dites nous ramène au problème, à la question de départ, continuité, discontinuité. Moi, j'ai toujours aimé les remarques de Marx anti-françaises en disant « ces Français sont des imbéciles, ils ne comprennent que la politique, ils expriment tout en termes politiques. Quand il s'agit de réalité économique et sociale, ils sont nuls. » Ben, qu'est-ce que vous voulez? Entre le début de ma vie professionnelle, c'est-à-dire quand même il y a un demi-siècle, après la Libération, on est en pleine société industrielle. Maintenant, on est en plein dans une autre... Je dis, moi, j'insiste sur la continuité, mais il y a aussi maturation, et il y a aussi le fait qu'on est passé d'une société dominée par des catégories économiques à une société dominée par des catégories culturelles. Ce qui représente pour chacun d'entre nous de très grandes difficultés d'adaptation. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je voulais insister surtout sur la continuité. Alors, ce que vous dites, et qui d'ailleurs me touche parce que je sens les difficultés que ça représente, oui, Il faut, à un moment de sa vie, même si ce n'est pas le milieu, il faut aussi se remettre dans un certain contexte. Il y a des choses que je n'apprendrai pas, ou je demande à mon ami Castells de m'apprendre les théories de la communication, ou ce que représente vraiment Internet, etc. Bon, j'ai parfaitement le sentiment, et je revendique même le fait d'avoir su sauter d'une société à une autre sans me perdre dans les buissons entre les deux. Mais quand même, je reviens sur mon désir de donner la priorité au sujet. Après la libération, hein, quand j'étais donc gamin, nous avions le sentiment à la fois qu'il fallait transformer la vie économique, enfin, éliminer la bourgeoisie économique, donner une expression politique à la classe ouvrière et donner une image nouvelle de la nation. Bon. D'une certaine manière, je parlais en termes privés et publics du sujet. Et les uns et les autres, nous avons été, moi j'en ai gardé un grand souvenir, nous avons été travailler avec des syndicalistes qui sont parmi les gens pour qui j'ai eu le plus d'estime dans ma vie. Que tous des militants communistes, mais je dirais la question n'était pas là. Et donc, il y avait bien un côté sujet. Et aujourd'hui, alors qu'on nous embête avec ces histoires de globalisation mal compris, etc., je dis, il est fondamental qu'au-delà de la connaissance des nouvelles technologies, des nouvelles formes d'organisation économique, nous n'oublions pas de regarder le point central, c'est-à-dire, et qui nous préoccupe. Y a-t-il de nouveaux acteurs? Y a-t-il de nouveaux conflits? Y a-t-il de la recherche de nouveaux compromis ou de nouvelles transformations? Et ce que je dis donc dans la période actuelle, c'est du côté des acteurs culturels, c'est dans le champ culturel que cela doit se trouver. Et pour des raisons qui importent peu ici, moi je suis arrivé à parler avec beaucoup plus de précision et à dire que c'est la transformation du rapport homme-femme qui est aujourd'hui le phénomène central et auquel il faut s'intéresser. Bon, on en reparlera dans un certain nombre d'années, je l'espère, mais ce qui est mon désir le plus fort en ce moment, c'est même, disons, rétrospectivement, c'est pour ça que j'ai refait des préfaces et des uns, c'est de trouver la continuité d'un travail autour de la notion de sujet au cours d'un demi-siècle pendant lequel, où cette notion n'existait plus à la vente, où était vendue à un prix dérisoire dans les mauvaises universités. Moi, j'espère que, de même qu'il y a, je ne sais pas, 30 ou 40 ans, je crois avoir contribué à introduire l'idée d'acteur social au lieu de classe sociale. Je voudrais bien, en tout cas, rester comme celui qui s'est battu pour reprendre l'analyse et aussi réorienter l'action en fonction d'une conception d'un sujet qui a des droits à la fois politiques, sociaux et culturels.